On a eu un bon moment à louer le Seigneur, à pouvoir se lâcher, si je peux dire. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de penser qu'il faut qu'on s'excuse d'être charismatique, qu'on s'excuse de faire trop de bruit, amen, qu'on s'excuse de rigoler parce qu'on est chrétien. Il faut qu'on arrête d'être complexé. Amen. Il y a un fleuve, Dieu nous appelle à rentrer dans ce fleuve. Les ringards, ce sont ceux qui ne rentrent pas. Amen. Ce ne sont pas ceux qui font du bruit. Les ringards, c'est ceux qui restent à côté, qui regardent les autres et qui commencent à les juger. Tiens, lui, il fait trop de bruit. Tiens, pourquoi lui, il secoue. Tiens, pourquoi lui, il grogne comme un cochon. Amen. Toutes sortes de réflexions, parfois, auxquelles on a affaire lorsqu'on devient charismatique selon le principe biblique. Amen. Non. Donc, il faut qu'on... Tu m'as coupé, là. Il faut qu'on soit décomplexé. Alléluia. Donc, vraiment, tapez sur l'épaule de votre voisin, dis-lui, allez, relax, décomplexe-toi. On est dans la maison du Dieu vivant. On est à la maison. Vous savez, nous, on a parfois, comme le disait Michael dans une de ses prédications, on a parfois l'impression que Moïse, lorsqu'il s'est déchaussé dans la présence de Dieu, c'était d'une manière religieuse, comme on conçoit, nous, la religion parfois. Il s'est déchaussé, il était dans la présence de Dieu. Mais non, il s'est déchaussé parce que Dieu lui a fait comprendre qu'il était à la maison et qu'il pouvait lever ses souliers. Alors ce matin, pas besoin de tous lever vos souliers, on risque d'avoir droit à certaines odeurs qu'on ne recherche pas spécialement. Mais nous sommes à la maison, amen. À la maison, il faut se sentir à l'aise. Alléluia. Alors le thème de ce séminaire, c'est un peuple nouveau, des choses nouvelles. Et lorsque nous faisons allusion à un peuple, nous avons dit vendredi soir, ce peuple est destiné à être une armée pour briser le pouvoir de Satan qui aujourd'hui plus que jamais essaye d'intimider justement les enfants de Dieu, travaille à briser les familles, travaille à briser les couples, travaille à briser notre morale, travaille à briser l'autorité que Dieu a placée sur cette terre entre les mains de l'Église. Dans ce peuple, c'est l'Église. L'Église, elle est composée de personnes. Donc lorsque Dieu revient, si je peux dire, sur le devant de la scène, pour que son église devienne puissante, il relève la tente de David, il fait en sorte que chaque catégorie de personnes qui fait partie de l'église puisse retrouver sa fonction convenablement, afin que la machine se remette à tourner normalement. Nous sommes tous conscients, sans avoir obligatoirement un esprit de critique, que ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est la dernière fois que vous avez ressuscité un mort, vous? Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et à la rigueur, si ce n'est pas nous, on devrait connaître quelqu'un qui en a ressuscité un il n'y a pas longtemps. Qui connaît quelqu'un qui a ressuscité un mort il n'y a pas longtemps? Levez la main. Voilà, donc on est en panne de puissance, vous êtes d'accord avec moi? Il semble qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Or, le Seigneur dit de son Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Et dans le texte grec, il n'est pas fait allusion à une église qui est là en train de se protéger des portes de l'enfer autour de nous. C'est le monde. Attention, n'allez pas boire un café dans un bar, vous allez attraper un démon. Non, c'est une église agressive. Comme le disait Michael, c'est une église qui sort et qui va jusqu'aux portes de l'enfer pour empêcher les gens de partir en enfer. Et ceux qui sont en train de partir, elle les rattrape au dernier moment. C'est pourquoi Jésus, il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le chrétien du dimanche, il s'empare de rien du tout. Les promesses sont pour des personnes qui apprennent à perdre leur vie. Et nous, nous cherchons des gens, alléluia, qui veulent s'engager, mais pas à mi-temps, à plein temps pour le Seigneur. Et comme on l'a dit, on peut travailler à l'usine, on peut travailler comme femme de ménage, on peut vendre derrière un stand sur le cours Lafayette et être à plein temps pour Dieu. Être à plein temps, ce n'est pas obligatoirement tenir un micro et être sur une estrade. Amen. Mais des personnes dont le cœur est tout entier à Dieu et qui cherchent dans ces temps les intérêts de Dieu avant de chercher leurs propres intérêts. Alors Dieu veut restaurer la jeunesse parce qu'elle a une place importante à tenir dans le réveil qui vient. Il veut restaurer les enfants aussi parce qu'il n'est jamais trop tôt pour connaître le Seigneur. Il veut restaurer les personnes âgées aussi parce qu'il n'est jamais trop tard. Amen. Et Dieu veut restaurer les familles parce que la famille, c'est un fondement dans l'Église. Lorsque le diable détruit les familles, il détruit l'Église. Et ce matin, notre thème, c'est que les hommes se lèvent et que les femmes se lèvent. Il y a un appel de l'Esprit de Dieu aujourd'hui à ce que les hommes se lèvent. Vous avez remarqué que dans nos églises, nous avons beaucoup de femmes consacrées, beaucoup de femmes super sympas, amen. Certaines même qui mériteraient de trouver un mari super. Et puis, on les cherche, les hommes. On cherche les pères, on cherche les maris, on cherche les hommes qui vont affronter les tempêtes, alléluia. Parce que Dieu lui-même, il cherche des hommes. Je cherche un homme qui se tient à la brèche. Alors on peut être un homme sans correspondre aux critères de Dieu en ce que doit être un homme. Est-ce que vous me suivez? Des hommes, on peut en trouver. Mais Dieu cherche des hommes dignes de ce nom. Amen. Jésus, c'était un homme dans le plein sens du terme. Son oui était oui, son non était non. Il avait du caractère, alléluia. Une chose qui caractérise notre société, c'est la démission des hommes en tant que mari et père. Et dans ce monde, l'homme, il se caractérise souvent par son égoïsme. Il pense souvent que sa femme n'est là que pour le servir, qu'elle doit toujours être disponible, sans chercher à la soulager en quoi que ce soit. L'infidélité, ça caractérise l'homme de cette société souvent. Cet homme qui a une énergie sexuelle puissante, qui est au départ un don de Dieu. Eh bien, si c'est pas correctement la canaliser, il recherche à avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes que la sienne. Et ça s'appelle de l'adultère. Et c'est un des péchés qui a le plus de conséquences néfastes dans cette société parce que ça brise le conjoint, ça brise les enfants. Cet homme, il est souvent violent parce que de nature généralement plus fort que la femme, eh bien, beaucoup d'hommes profitent de cet état de choses. Ils laissent libre cours à leur violence envers leurs femmes ou envers leurs enfants. En France, une femme meurt sous les coups de son mari tous les 4 jours. Il y a des tas d'hommes qui ont l'air, même dans les églises, supra-spirituels. Je dirais même, c'est parfois les gens qui sont le plus calmes à l'église. Et quand ils rentrent à la maison, ils crient comme des malades. Eh bien, qu'ils viennent crier à l'église et qu'ils soient calmes à la maison. Alors, il y a un appel de Dieu. Aller dans la direction opposée. Qu'est-ce que ça signifie, la repentance? Ça signifie se repentir, faire un retour. Quand je me repens, je ne suis pas obligé de venir verser des tonnes de larmes. Si je les verse, alléluia, c'est bien. Mais Dieu va accepter mes larmes à condition qu'elles soient suivies d'actes dignes de repentance. Moi, j'ai vu des centaines de gens pleurer, se traîner par terre et rester les mêmes. Donc, il y a un appel de Dieu à aller dans la direction opposée de ce qui caractérise l'homme dans cette société. En énumérant les points que j'ai énumérés, je veux souligner le fait que l'homme de Dieu qui se lève doit aller dans une direction opposée. On doit voir la différence entre l'homme de Dieu et l'homme dans ce monde. Et d'ailleurs, la Bible, dans Malachie, a un verset fantastique. Combien j'aime ce verset! Dans ces temps-là, nous dit ce verset, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Amen. Les gens doivent voir la différence entre vous qui servez Dieu et celui qui ne sert pas. Sinon, tous les amen, tous les alléluia n'ont pas beaucoup de valeur. Et cet homme, il doit exprimer sa masculinité. Eh bien, en aimant sa femme concrètement, en la protégeant, en l'encourageant, en la soulageant. D'ailleurs, toute femme, bien dans sa tête, désire être soumise à un mari dont elle sait et dont elle se sent aimée, sur lequel elle peut s'appuyer. Dans la soumission, dans la mesure où ça rentre dans le cadre de quelqu'un qui est là pour être une source de bénédiction pour nous, ça ne devient plus un problème. D'ailleurs, le mot « chef » dans l'écriture, vous le prenez dans le grec, ce n'est pas du tout le chef de la femme. Il rentre le soir, il met les pieds sous la table, il dit « chérie, elle est prête, la soupe, amène-moi mes pantoufles. » Non, d'après le terme grec, le mot « chef » signifie « il est la source de la bénédiction ». Alléluia. Toute femme intelligente a envie d'avoir quelqu'un qui est une source de bénédiction. Parce que s'il est une source de bénédiction, la dernière chose qu'il va faire, c'est l'oppresser. Amen. Il est important que nous redonnions aux termes bibliques leur vraie définition, au lieu de parfois, lorsque nous lisons la Bible, leur donner la définition qui existe dans le monde. Certaines personnes, quand vous leur dites « Dieu, c'est ton père », ça les intéresse pas trop parce qu'ils font de suite un parallèle avec leur père dans ce monde, qui leur a filé des coups de ceinture, qui les a méprisés, qui les a jamais pris dans les bras. Alors ils disent « Ouais, c'est mon père, s'il peut être autre chose, ça m'arrangerait ». Donc nous devons mettre sous la définition du mot « père » la définition biblique, alléluia. Dieu est un père digne de ce nom. Donc l'homme est appelé à être fidèle. La fidélité est une des vertus bibliques les plus fortes. Amen. Nous avons besoin même dans nos églises de gens fidèles au lieu de gens qui s'engagent pendant 15 jours et qui laissent tout tomber après. Dieu veut un peuple fidèle. La fidélité d'un ami est quelque chose de précieux d'après la Bible. Et la force réelle d'un homme ne se trouve pas avant tout dans ses muscles, heureusement pour moi, mais se révèle dans sa réaction face à la tentation. Les histoires de Samson et Joseph nous montrent clairement cela. Et d'ailleurs, ce qu'il advint de chacun d'eux nous montre aussi qu'il y a un salaire pour chacun de ces deux comportements opposés. Amen. Samson, il avait un être extérieur fort, il avait un être intérieur faible. Et je crois que Joseph, lui, devait avoir un être extérieur plus faible, mais un être intérieur plus fort. Alors, c'est pas votre aspect macho qui importe. Amen. C'est la force qui est à l'intérieur qui va faire la différence. Alléluia. Et les hommes doivent se lever en tant que pères. Cette image qui doit être remise au goût du jour. L'homme qui se lève en Christ est appelé à se lever avec l'image de Dieu et donc est appelé à refléter celle du Père. Le monde est rempli de pères qui ne sont plus que des pères biologiques, mais pas des pères au niveau spirituel, affectif et moral. Et des pères doivent être un modèle, ils ont une mission, engendrer, et engendrer non seulement des enfants, mais engendrer chez ces enfants une moralité et une mentalité. Alléluia. D'ailleurs, je dis au passage qu'on n'aidera jamais des enfants en engendrant en eux une mentalité religieuse, en leur faisant manger du Jésus du matin, midi et soir. À un moment donné, ça va leur sortir par les trous du nez et des oreilles. Les hommes sont appelés à se lever en tant que membres engagés dans l'Église. L'homme qui est le chef de sa famille doit montrer l'exemple à celle-ci. Il doit faire en sorte de devenir un membre engagé dans son Église locale, de communiquer même l'amour de l'Église à ses enfants, d'être un pilier dans l'Église. S'il fait le contraire, s'il fait partie de ces gens qui sont irréguliers aux réunions, qui critiquent tout, qui parlent des problèmes des uns et des autres devant les enfants à la maison, non seulement il fait une œuvre de destruction, mais il entraîne sa famille dans cette œuvre-là. D'ailleurs, je vous dirai au passage qu'il y a des choses à la maison, les enfants, ça les regarde pas. On n'a pas à les dire devant les enfants. On n'a pas à parler du frère un tel et de la sœur un tel devant les enfants. Ils vont avoir l'impression que l'Église, c'est qu'un ramassis de gens à problème et de gens incapables. Alléluia. Déjà, quand on parle des gens, on devrait juste parler le temps qu'il faut pour constater certaines choses. Et je crois que quand on passe un certain temps, alléluia, eh bien, c'est plus de la constatation, c'est de la médisance aux yeux de Dieu. Et alors qu'on croit construire, on est en train de détruire. Beaucoup d'enfants de chrétiens et de pasteurs sont devenus allergiques à l'église locale à cause de ce qu'ils ont entendu dire à la maison sur un tel ou une telle. Donc les hommes doivent se lever aussi dans cette société. Beaucoup de gens, y compris de chrétiens, se laissent influencer sur leur lieu de travail, au milieu de leur famille. Ils n'osent pas dire non. Et l'Écriture nous appelle à nous comporter en homme dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, je dirais là encore au passage que ce n'est pas toujours évident. Et donc, nous avons besoin de la compassion de nos femmes, nous avons besoin de la compassion de nos enfants, nous avons besoin de la compassion des autres. Alléluia. Nos enfants ont besoin de notre compassion. Ça, c'est un mot-clé, compassion. Vous avez vu les pressions auxquelles ils sont confrontés à l'école? Amen. Alors, quand ils arrivent avec un zéro qui se sont battus à l'école, il faut relativiser, hein? Souvent, on leur dit « Ah, mais on a envie d'ajouter moi à ton âge » et puis on se rappelle qu'à leur âge, on faisait pire. On ne peut pas leur demander de réussir ce que la plupart d'entre nous, on a échoué. Amen. L'Écriture nous appelle à nous comporter en homme dans notre vie de tous les jours, cela en vivant publiquement ce que l'on entend être prêché à l'Église. Le psaume 1, au verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Alléluia ! Je le dis souvent à mon fils Timothée, « Chérie, t'inquiète pas, peut-être il y a des gens qui sont méchants à l'école, ils se moquent de toi. N'agis pas de la même façon, parce que ce qu'un homme sème, il le récoltera un jour. S'il ne le récolte pas la semaine prochaine, il le récoltera quand il sera grand, mais il le récoltera. » Alléluia. La Bible dit « J'ai vu le juste prospérer, et moi pendant ce temps j'avais l'impression que j'étais, ça c'est la version moderne, largué derrière. » Et à un moment donné, le juste, il a disparu. Je ne l'ai plus vu, et moi j'étais toujours en train d'aller mon chemin, j'étais toujours là. Parfois, on est tenté d'envier les méchants qui prospèrent. Hein? Toi, tu es là avec ta vieille casserole en train de rouler, là, et l'autre qui pêche, qui a quitté l'église, qui vit dans le péché, il te double avec sa Porsche rouge, et il te nargue. Et dans ta casserole, tu dis, Dieu, c'est ça la justice hein? Amen. Mais laisse passer le temps. Amen. Toi, un jour, tu t'achèteras une voiture neuve parce que Dieu te fera prospérer, même si c'est progressivement. Mais lui, avec sa Porsche, un jour, tu n'en entendras plus parler. Ni de lui, ni de la Porsche. Alléluia. Donc, les hommes sont appelés à se lever face aux tempêtes de la vie. D'ailleurs, ce qui caractérise un homme est qu'il n'abandonne pas le bateau. Ce peut être le bateau de sa famille, le bateau de son église, le bateau de sa vie avec Dieu. D'ailleurs, les personnes qui réussissent dans la vie, c'est-à-dire qui viennent à bout de leurs projets, de leurs visions, ne sont pas des gens qui ne connaissent pas d'échecs sur le chemin. Ils sont parfois parmi ceux qui en ont connu le plus. Seulement, ils ont accepté de se relever. Ils n'ont pas laissé tomber la vision au cours de leur chute, où ils l'ont vite ressaisi pour s'élancer avec encore plus d'efforts. Un exemple des plus intéressants qui image ce que je suis en train de dire, c'est celui d'Abraham Lincoln. En 1832, Abraham Lincoln, il a perdu son travail. Il s'est présenté aux élections législatives, il les a perdues. En 1833, il fait faillite. En 1835, il perd sa fiancée qui meurt. En 1836, il a eu une dépression nerveuse. Et par la suite, il a encore subi plusieurs échecs politiques, les uns après les autres, entre 1838 et 1858. Et pourtant, cet homme, qui est devenu un chrétien convaincu, a fini par devenir un jour président des États-Unis et un des plus grands leaders de l'Amérique. Et c'est sous sa présidence qu'un des plus grands combats spirituels de l'histoire a été gagné, l'abolition de l'esclavage. Amen. Non, quand on voit le nombre de chrétiens qui se découragent, tout simplement, on ne m'a pas dit bonjour quand je venais à l'église. On ne s'est pas occupé de moi. On ne m'a pas donné la bonne parole. Moi, je dis souvent, allez faire un stage 15 jours à Madagascar. Amen. Alléluia. Après, tu la manges, ta soupe, quand tu reviens à la maison. Alléluia. Quand tu débarques à Madagascar, tu as l'impression de changer de planète. Vous savez, ces t-shirts comme on voit dans Tintin au Congo, là, que portent certains Africains. Il y a le t-shirt devant et derrière, il n'y est plus le t-shirt. Bien, vous voyez ça, Madagascar. Les choses qu'on jette, nous, c'est ce que les gens mettent et dont ils se servent. Et quand vous revenez, vous avez du mal à supporter les gens dans votre église qui sont toujours en train de se plaindre d'une chose ou d'une autre. Alors, si vous avez un problème à vous plaindre, 15 jours à Madagascar. Alléluia. Gloire à Dieu. Envoyez votre mari 15 jours à Madagascar, votre femme 15 jours à Madagascar, alléluia. Vous verrez après qu'est-ce qu'ils vont être gentils de retour. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Voilà, j'ai mis de l'argent de côté, je t'ai acheté un billet d'avion. Bon, il y en a, ils risquent d'acheter que l'aller, quoi. Acheter le retour aussi, hein. Mesdames, mesdemoiselles, les qualités d'une femme ne se jugent pas sur son tour de taille ou ses yeux langoureux. Eh bien, de même, un homme avec qui faire sa vie ne doit pas être jugé sur l'extérieur. Amen. Une femme doit apprendre à reconnaître le genre d'homme qui lui servira d'appui dans toutes les situations difficiles de la vie. On dit aussi que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Sachez aussi que votre mari, votre fiancé peut se dépasser au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer lui-même si vous acceptez d'être un instrument de Dieu pour l'encourager, pour l'aider, au lieu de le critiquer continuellement. Amen. Au lieu de faire ressortir continuellement ce qui ne va pas, pourquoi ne pas mettre bien en évidence ce qui va? Quel silence. Les gens ont souvent des chrétiens l'image de personnes faibles, sans trop de caractère, ni de personnalité. Souvent, ils rentrent là et ils s'attendent à voir que des ringards, vous savez. Mais moi, ça me plaît parce que d'un coup, on se rend compte que c'est eux qui se retrouvent coincés dans nos milieux. Nous, on crie de tous les côtés, on s'excite, eux, ils sont là, là. Peut-être la veille, ils se sont excités comme des malades sur le terrain de football, mais là, ils sont complètement coincés. Vous savez qu'il y a plus ici qu'un jeu de ballon, il y a le Seigneur. Ce qu'on est capable de faire sur un terrain de football, pour un match de football, eh bien, on doit pouvoir le faire pour le Seigneur. Parce que vous avez vu, ils adorent là-bas aussi. Hein. Ils élèvent les mains, il y a tout. Amen. Alors, on va se gêner, nous. Tu rentres dans l'église et d'un coup, il faut être... Frère, c'est vous, merci. Le frère Michael va nous présenter maintenant le service. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu es là, tu as envie de rentrer à la maison. On est là pour s'exciter dans le bon sens. Christ, notre modèle, était un homme dans tout le sens du terme. Il a résisté à l'iniquité avec courage. Il a aimé les siens au point de donner sa vie pour eux. Et quand même, il avait tous abandonné. Ça, c'est un homme. Bon, moi, j'ai envie de ressembler à Christ. Alléluia, j'ai encore du chemin, mais ce n'est pas au frère un tel ou au pasteur un tel que j'ai envie de ressembler. Moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors il est temps pour nous les hommes, combien nous avons d'hommes ici? Un seul, deux, oh. Voilà. Alors il est temps pour nous les hommes de nous lever. Levez-vous les hommes, alléluia. C'est une merveilleuse... Oh. Nous sommes en minorité. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est une merveilleuse vocation que Dieu nous a donnée, les amis. Il ne faut pas qu'on la gâche. Il ne faut pas qu'on prenne nos modèles dans ce monde. Notre modèle, il s'appelle Jésus-Christ. Dieu fait homme, alléluia. On ne peut pas avoir mieux, alléluia. Et Jésus-Christ, il était viril. Alléluia. Il n'a rien à voir avec l'image religieuse. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il était oint d'une huile de joie. Donc, s'il était oint d'une huile de joie, il devait rire régulièrement, parce que ça serait un non-sens d'être oint d'une huile de joie et d'être là comme dans les films. Jésus fait un miracle. Jésus marche sur l'eau. Jésus ressuscite un mort. On dirait les livres de Martine. Vous savez, Martine fait ça, Martine... Non! D'ailleurs, il est sorti d'autres versions de l'évangile. Il y a des films, je crois en Afrique du Sud, ils ont fait l'évangile de Matthieu où Jésus, il rigole. Mais c'est logique, il était loin d'une huile de joie. Il tressaillait d'allégresse. Tressaillir d'allégresse, c'est pas... Hop, c'est ça, tressaillir d'allégresse. Oh, frère, vous avez tressaillé. Alors, il est temps pour nous, les hommes, de nous lever pour marcher sur les traces de Jésus. Alléluia! Alors, au lieu de critiquer nos femmes, nous avons assez de boulot à nous concentrer sur nous-mêmes. Alléluia! Tellement le programme est intéressant. Alors, les femmes, bien sûr, sont aussi appelées à se lever puissamment. Bon, quand j'ai dit les hommes, j'ai pas eu de ce bruit. Oh. Bon. Il y a un contraste évident entre la conception de la position de la femme, vue et mise en pratique par les hommes, influencée par des enseignements religieux, et la vraie pensée de Dieu. Les femmes ont régulièrement une place clé dans le Nouveau Testament, comme si l'Esprit de Dieu voulait bien mettre en évidence l'affranchissement qui devient le leur en Jésus-Christ. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Oui, dans la société, il y a homme-femme. Oui, dans le couple, il y a homme-femme. Il y a grec-juif dans la société. Donc, Paul parle de deux choses différentes. Dans le cadre du ministère, il n'y a ni homme ni femme. Les femmes peuvent être apôtres, les femmes peuvent être évangélistes, les femmes peuvent être pasteurs. Je sais que ça choque. Et ce que Paul a voulu dire lorsqu'il dit « j'interdis à la femme d'enseigner », dans le grec, il dit tout simplement qu'il interdit à la femme de marcher sur les pieds de son mari dans la vie sociale. Et on a pris ce verset qui concerne la vie de couple et on l'a adapté à la vie dans le ministère. Vous voyez les ravages qu'on fait ? Et pendant des années, on empêche des milliers de femmes de rentrer dans leur vocation. Je vous encourage à prendre... Acheter le CD s'il en reste sur l'enseignement, il faut libérer les femmes qu'on a données à gré, sinon à le commander auprès de SPLN. Donc, dans le Nouveau Testament, la femme reste soumise à son mari et doit apprendre à garder une place de femme dans la société. On veut nullement remettre ces choses en question. Simplement, il y a une différence entre être soumise à son mari et être écrasée par lui, à s'occuper des soins domestiques et ne faire que cela. À être retenu et être complètement effacé, à être chaste et s'habiller comme une grand-mère. Voilà, il faut juste bien marquer la différence entre ce que Dieu a voulu dire et ce que nous, on ajoute souvent avec notre esprit religieux. D'ailleurs, parfois, vous voyez des hommes dans le ministère, ils sont super sapés et tout, et puis leur femme, elle suit derrière, on dirait que c'est leur mère. Parce qu'eux, ils s'occupent d'eux, mais ils ne s'occupent pas de leur femme. Et parfois, il y a des tas d'hommes qui sont pour les femmes qui sont dans le ministère, mais tant qu'il ne s'agit pas de la leur. Et l'Esprit de Dieu ne peut s'associer à de telles injustices. C'est pourquoi Dieu accentue bien dans l'Écriture. Et le jour de la Pentecôte, dans la bouche de Pierre, le Saint-Esprit dit qu'il se répandra sur les serviteurs et sur les servantes. L'Écriture met en évidence la qualité de servante qu'ont manifesté de nombreuses femmes. Des femmes soutenaient le ministère de Jésus en tant que partenaire. Alléluia! Si Jésus pouvait évoluer tous les jours sans avoir besoin d'emprunter de l'argent, c'est parce qu'il y avait des femmes riches qui le soutenaient de leur bien. Est-ce que vous imaginez demain, si dans les journaux en première page on dit « Claude Payen est soutenu par des femmes ». Non, mais vous imaginez l'effet que ça va faire? On va dire, voilà, on savait que c'était un gourou. D'ailleurs, avec la coupe de cheveux qu'il a, ça ne pouvait pas être autre chose. Donc, on se rend compte que Jésus, il ne s'occupait pas trop de ce que les journaux pouvaient raconter. Amen. Parce qu'il avait son identité propre. Et dans la vie, quand on manque d'identité, on doute de tout. Et les autres nous font douter de tout. Mais quand on a son identité d'homme, alléluia, ou quand on a son identité de femme, eh bien, on n'est pas déstabilisé par ce qui se passe autour de nous. Et il est important d'affermir son identité, alléluia. Quand on a affermi son identité, on ne se sent pas menacé par les autres, parce qu'on est en compétition avec personne. Et la Bible nous dit de ne pas nous comparer les uns aux autres, alléluia. On ne se compare pas à sa femme ou à son mari, parce qu'on est différent. Vous avez remarqué qu'un homme et une femme, c'est différent. Il y a quelques parties qui ne sont pas mises au même endroit. Vous avez remarqué ça? Eh bien, dans la tête aussi, ils sont différents. Si bien que si l'homme, il essaie d'aimer sa femme en raisonnant, en pensant qu'elle raisonne comme lui, il ne va jamais y arriver, même avec toute la bonne intention. Et d'ailleurs, les uns avec les autres, quand on veut s'aider, il est important d'apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne. Je ne peux pas aider Michael si j'essaye de l'aider en fonction de qui je suis moi. Parce qu'il fonctionne de manière complètement différente de la mienne. Et vice-versa. Amen. Je peux vouloir vous aider. Et moi, j'aime les fleurs, par exemple. Bon, j'aime pas spécialement les fleurs, c'est un exemple. Et je viens vous offrir des fleurs. Je vous les offre parce que moi, je les aime. Mais vous, peut-être, vous n'aimez pas les fleurs. Donc, la manière de vous aimer, c'est pas de vous offrir ce que moi, j'aime. C'est de comprendre ce que vous aimez. Même si je l'aime pas, je vous l'offrirai quand même. Est-ce que vous suivez ? Il y a des tas de gens qui essayent d'aimer les autres en fonction de ce qu'ils aiment eux. Je le dis souvent, cet exemple. Ça me rappelle mon père, lors des anniversaires de ma mère, il lui offrait des disques qu'il aimait lui. Donc il passait la journée à essayer de la convaincre combien les morceaux étaient superbes. Sacré papa, hein. Alléluia. Alors des femmes soutenaient le ministère de Jésus en tant que partenaire, mais il n'y avait pas que cette forme de service qui était exercée par des femmes. Des femmes ont de tout temps servi Dieu dans les ministères importants. Exemple, Déborah qui était prophétesse et juge de tout Israël. Aujourd'hui, on appellerait ça un ministère apostolique de pasteur et de prophète. Quand vous êtes à la tête de tout un peuple et que vous êtes appelé une prophétesse, amen. Plusieurs femmes occupent dans l'Ancien Testament la place de prophétesse qui correspond sous la Nouvelle Alliance à un de ce qu'on appelle les saints ministères. Et il faut savoir que sous l'Ancienne Alliance, le seul des saints ministères qu'il y avait, c'était celui de prophète. Amen. Donc quoi d'étonnant que sous la Nouvelle Alliance, il y ait des femmes qui sont appelées comme prophètes, apôtres, pasteurs, amen, un des saints ministères. Junias, cité parmi les apôtres dans Romains 16, 7, dans le grec, c'est en réalité une Junias. Non, ça ne tient pas debout. C'est une femme, alléluia, c'est le nom d'une femme. Et dans le grec, il apparaît que ce nom-là n'est pas le nom d'un homme. Elle est citée parmi les apôtres. Ensuite, la réalité nous montre des femmes qui ont été puissamment ointes par le Saint-Esprit dans ce siècle et les siècles passés pour occuper la charge de pasteur, évangéliste, enseignant, prophétesse, Maria Wurtz-Hitter. Vous avez entendu parler de Maria Wurtz-Hitter ? Qui a fait des signes et des prodiges comme peu d'hommes en ont fait. Dans ces rassemblements, les gens avaient du mal à rester debout. Vous rentriez sous les tentes où elle faisait ces rassemblements, on aurait dit un champ de bataille parce que les gens tombaient de tous les côtés. Les gens étaient guéris, les gens secoués, se roulaient par terre sous l'onction du vin nouveau. Et ça, c'était au début du siècle. Donc quand on parle de nouveau, souvent on ne veut pas dire que c'est un nouveau que Dieu va créer comme si ça n'avait jamais existé. On parle des vérités de Dieu qu'il a déjà manifestées au cours des âges qui doivent revenir à la surface. Amen. Et même Malcolm McPherson était une femme apôtre. Elle a créé les églises Foursquare Church et elle a fait des miracles merveilleux. Elle a ressuscité des morts. Mais c'était une femme originale. D'ailleurs, quand vous regardez la biographie des plus grands serviteurs de Dieu et des plus grandes servantes de Dieu, vous vous rendez compte que c'est des gens bizarres, c'est des gens originaux. Maria aimait Malcolm McPherson, elle faisait changer régulièrement le décor dans son église. C'était une artiste. Un jour, elle prêchait sur Jonas et elle a fait construire une grosse baleine en bois. Elle s'est assise dans la bouche de la baleine pour prêcher. Mais c'est sûr, ça brise la notion religieuse de l'Église. Bien, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et si vous êtes venu dans ce lieu, vous dites, ça ne se passe pas comme chez moi. Ben, tu n'as pas remarqué que tu n'es pas chez toi. Tant mieux. On veut des choses nouvelles, et les choses nouvelles doivent nous surprendre. Si elles ne nous surprennent pas, elles ne sont pas nouvelles. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit laisser libre accès à tous les débordements. Quelqu'un dit, je suis sous l'onction de l'esprit, je fais tic-tac, tic-tac. Alors pourquoi tu fais tic-tac? Eh bien parce que c'est l'horloge de Dieu qui sonne. Eh bon, ça va. C'est sûr que ça ouvre la porte à tous les débordements, quand on ouvre la porte à la liberté. Mais comme disait quelqu'un, il vaut mieux avoir un feu un peu fou de temps en temps et qui prend au rideau que pas de feu du tout. Alléluia. Il vaut mieux avoir parfois du désordre qu'un ordre cimetière. Vous avez remarqué, dans un cimetière, il y a l'ordre, hein? Il n'y a personne qui bouge. Hein? Alors, il vaut mieux qu'il y en a qui bougent un peu n'importe comment, parfois, et on va les arrêter, on les reprend. Nous, après chaque séminaire, on fait un débriefing. On dit, voilà, là, il y a ça qui n'a pas marché, il y a ça qui était de travers. Tiens, machin, il a dit ça, le Saint-Esprit m'a montré, et puis c'était pas le Saint-Esprit. Mais on ne va pas lui chasser 20 démons parce qu'il a dit ça, c'est pas grave. On apprend. Alléluia! Il faut dédramatiser dans la vie. On a droit à l'erreur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que vous devriez apprendre à vous lâcher en sachant que vous avez droit à l'erreur si vous vous lâchez avec assez d'humilité pour accepter d'être repris si vous vous trompez. Alléluia. Toute personne qui fait un minimum de recherche trouvera tout au long de l'histoire de l'Église un grand nombre de femmes puissamment utilisées. Catherine Kuhlmann. Mais il y a des tas de gens qui n'aimaient pas sa manière de parler. Elle était très théâtrale avec une grande robe, alléluia. On n'aime pas parfois les gens parce qu'ils ne sont pas comme nous. Vous savez ? Ah, c'est bien ce qu'il dit, mais s'il n'avait pas cette coupe de cheveux-là. C'est bien ce qu'elle dit, mais elle m'énerve, la manière dont elle parle. Et vous, peut-être vous énervez beaucoup d'autres personnes qui n'osent pas vous le dire aussi. Amen. Alors si on veut bâtir des églises avec des gens comme nous, vous savez, on va avoir du mal. D'ailleurs, on ne va plus pouvoir les supporter au bout d'un moment. Et si on cherche l'église parfaite, ben, si vous la trouvez, n'y allez pas. Parce qu'à partir de l'instant où vous allez rentrer dedans, elle ne va plus être parfaite. Ça n'existe pas. Vous avez vu les épîtres qui sont écrites aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. Elles sont toutes écrites à des églises imparfaites. Alléluia. Mais le Seigneur les encourage à aller de l'avant et à rectifier le tir pendant la route. Vous avez assisté à un séminaire imparfait. Vous avez droit à une prédication imparfaite. Vous n'aurez jamais un mari parfait, ni une femme parfaite. Mais on peut évoluer. C'est ce qui fait la différence. C'est quand on régresse que c'est terrible. C'est pas quand on voit les gens évoluer. Alléluia. Quand ils évoluent de jour en jour, on les supporte. Mais quand ils régressent de jour en jour, il y a un moment où on ne les supporte plus. Et ce n'est pas obligatoirement notre manque de patience à cet instant. C'est peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur la corde. Ouh ! Alléluia. L'adversaire utilise plusieurs ruses pour empêcher les femmes de se lever. Combien d'appels ont été réduits à néant tout au long de l'histoire de l'Église ? Par des enseignements sortis de contexte, nous en avons cité un tout à l'heure, à cause de beaucoup d'hommes que ça arrange parfois. Je crois que beaucoup de femmes restent en retrait, parce que beaucoup d'hommes ne supportent pas pour une raison ou une autre que des femmes soient mises au même rang qu'eux. Et il faut endosser cela au Saint-Esprit, mais c'est une manière de faire qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Jésus, il rencontre la femme samaritaine, et puis il commence à discuter avec elle. Et puis vous voyez les disciples qui sont là et qui ne sont pas contents. Il nous est dit, parce que ça ne se faisait pas de parler à une femme seule. Il n'en avait rien à cirer. Amen. Alors si Dieu veut qu'on soit tellement religieux, qu'on ne choque personne, pourquoi il ne nous a pas montré l'exemple? Il fait naître Jésus-Christ d'une vierge, mais ça la fout mal. Vous imaginez un peu? C'est comme si Dieu, dès le début, dit « On va casser le moule !» Seigneur, une vierge, c'est normal que les gens n'y croient pas. C'est comme si Dieu disait « Je vais mettre des obstacles sur leur route pour que seulement ceux qui se donnent la peine de me chercher me trouvent. » Et les autres, ils auront ces obstacles devant les yeux, ils seront aveuglés, et ils resteront dans leur misère. Voilà ce que Dieu a dit par la bouche de Jésus-Christ. Il leur a dit en d'autres termes aux pharisiens. Amen. Et je vais vous dire une chose, vous pouvez venir dans le rassemblement où il y a le plus d'onction, si vous ne cherchez pas Dieu, la gloire, elle va passer à côté de vous, vous ne vous rendrez même pas compte qu'elle était là. Il y a des choses qui sont en train de se préparer avec ces séminaires et vous pouvez passer complètement à côté. Et peut-être Dieu vous demande de vous engager, Dieu vous demande peut-être de semer dans ce ministère, mais vous passez à côté de la gloire. Demandez à Dieu de vous montrer sa gloire. Alléluia. Je le dis souvent, est-ce que vous réalisez, Jésus a passé 33 ans sur cette terre, donc pendant trois ans quand même. Quand il était petit, il ne faisait pas des miracles. Donc, il avait des petits copains à l'école. Quand il a grandi, il habitait avec ses parents quelque part. Peut-être il habitait seul, je ne sais pas. Eh bien, il y avait des gens qui étaient ses voisins. Il y avait des gens qui devaient le croiser au marché tous les jours. Ils croisaient Dieu venu en chair sur cette terre et ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que vous réalisez ? Dans la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous. Elle peut passer à côté de nous et on peut passer complètement à côté. Amen. Parce que Jésus-Christ, d'ailleurs, il n'a pas fait de miracle jusqu'à ce qu'il soit allé dans le désert, qu'il ait jeûné, qu'il ait vaincu Satan et qu'il soit ressorti, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'était pas plus le Fils de Dieu après qu'avant. Et quand il était petit à l'école, il ne faisait pas de miracle, il ne multipliait pas les billes avec ses petits collègues. Certains diront, oui, mais il ne pouvait pas savoir que c'était le Fils de Dieu parce qu'il ne faisait pas encore des miracles. Mais même quand il en a fait, les gens ne croyaient pas en lui. Et les gens vous disent parfois, ah, d'accord, je viens dans votre réunion, là, s'il y a un mort qui ressuscite, je croirai. Ouvre ton cœur, alléluia. Dieu y parle au cœur. Tu vas entendre Dieu. Je l'ai dit hier, moi j'ai fait cette prière un jour. Peut-être je suis en train de parler au mur, mais si ce n'est pas le cas, je veux te rencontrer. Eh bien, ça suffit. Amen. Par contre, fais toutes les prières religieuses sans sincérité et ça ne te mènera nulle part. Tu passeras à côté de la gloire. Alléluia. Et tu verras les autres bénis sur la chaise à côté de toi. Et toi, tu ne recevras rien. Et tu diras, mais pourquoi il rentre dans la louange et moi pas? Parce qu'il faut plonger dedans. Et toi, tu attends que les flots ils viennent sur toi. La foi, c'est agressif. C'est l'action. J'attends pas qu'on vienne vers moi. Je vais vers les choses que je désire. Je vais vers ma destinée parce que ma destinée ne se mettra pas en place automatiquement dans ma vie. Je le dis souvent, je vis dans un monde ici-bas où ce n'est pas la loi de la bénédiction ni les lois de Dieu qui prévalent. C'est la loi de la malédiction. Quand je me lève le matin, je suis agressé par la malédiction. Je n'ai même pas besoin de prier pour que les problèmes arrivent, ils arrivent tout seuls. Par contre, quand je veux la bénédiction, oh, ça a l'air dur, parce que je dois être agressif et aller chercher au voleur, au destructeur, qui est Satan, la bénédiction. Donc aucun chrétien dans ces temps qui veut demeurer un chrétien bien gentil ou un chrétien du dimanche, il ne perdra pas son salut, on est d'accord, mais aucun de ces chrétiens n'aura la victoire et aucun de ces chrétiens ne sera enlevé lors de l'enlèvement de l'Église. Autant que les choses soient claires et précises, parce qu'on risque d'avoir des surprises pour nous avoir prêché un évangile à l'eau de rose. Le jour où ces choses arriveront. Dieu se cherche une armée, il nous sélectionne, non pas en fonction de la couleur de notre peau, de notre pédigré, de nos diplômes, il nous sélectionne en fonction de la disponibilité de notre cœur. Et Jésus a donné une parabole où le semeur sort pour semer. C'est une chose de semer, c'est ce que Dieu nous demande de faire, mais on ne peut pas semer n'importe où. Il sème dans 4 sols différents, et dans un seul de ces sols, la semence, elle peut germer convenablement. Alléluia. Vous allez dire, oui, mais alors, pas de peau, moi, je suis un mauvais sol. Non, chacun de nous définit et décide pour lui-même quel genre de sol il doit être. Alléluia. Amen. Les autres sont engagés, moi, j'y arrive pas. Non. Dieu a donné à chacun de nous un merveilleux don. C'est par ce don, d'ailleurs, que nous arrivons à être sauvés, à accepter Christ comme sauveur. C'est le don de la volonté. Amen. Et la volonté, c'est accepter d'apprendre à dire oui et apprendre à dire non. Et c'est beaucoup plus facile souvent de dire oui que non. Vous avez remarqué? Mais il faut qu'on apprenne à dire non. Et j'ai un petit message au passage pour la plupart des enfants de Dieu ici. Arrêtez de travailler le oui. Travaillez le non. Arrêtez de travailler le oui. Et plusieurs personnes doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Travaillez le non. Le oui, vous l'avez travaillé au-delà de ce que Dieu vous demandait de le travailler. Dieu sait que vous êtes capable de dire oui à toute chose pour sa gloire. Et il est touché par ça. Mais vous avez créé un déséquilibre dans votre vie, dans la vie des gens qui vous entourent. Aujourd'hui, vous devez travailler le non pour rétablir cet équilibre. Alléluia. On a dit beaucoup de bonnes choses sur les femmes, il faudrait quand même qu'on trouve quelques trucs mauvais à dire. Hein? L'adversaire utilise plusieurs ruses pour empêcher les femmes de se lever, et une de ces ruses, c'est aussi la maladresse de beaucoup de femmes. Ah, on en tient. Qui confondent elles-mêmes l'autorité du ministère et l'autorité dans le cadre du mariage. Souvent, elles viennent à l'église et elles se donnent à fond dans les choses de Dieu. Et comme elles sont remplies de l'autorité de la vie de Dieu, elles rentrent à la maison, elles pensent qu'elles doivent commander. Elles écrasent leur mari. Et ça, c'est pas plus biblique. Dans toute chose, le diable essaiera de nous pousser dans des déséquilibres. S'il ne peut nous freiner, le diable, il essaiera de nous pousser. Vous savez comment s'arrêtent les réveils? Déjà, comment est-ce qu'ils commencent? Les réveils commencent parce qu'on par la puissance du Saint-Esprit et remise en évidence une vérité qui était oubliée. Ça peut être la vérité du Saint-Esprit, ça peut être la vérité de chasser les démons, de guérir les malades. Chaque réveil a vu le Saint-Esprit remettre en évidence une réalité qui avait été oubliée. Donc il s'accomplit ce que dit ce verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parviens à la connaissance d'une nouvelle vérité. On me prêche la guérison divine et comme je crois, il va y avoir des guérisons parce que j'ai placé ma foi dans ce que j'ai entendu, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'ai connu la vérité m'a affranchi, donc je rentre dans une nouvelle dimension avec Dieu et je vois Dieu se manifester par son Saint-Esprit avec une mesure plus grande. Est-ce que vous avez suivi? Non. Et les réveils, ils s'arrêtent. Parce que souvent les mêmes instigateurs des réveils, qui ont pris connaissance de ces vérités, qui les ont fait connaître aux autres, eh bien poussent maintenant ces vérités à l'extrême. Ils ont entendu parler du Saint-Esprit qui était plus qu'un nuage abstrait, une personne, alléluia, et maintenant ils prient même plus Jésus, ils prient même plus le Père, ils parlent que du Saint-Esprit et qu'au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même est attristé, gêné, parce qu'il est là pour glorifier Jésus. Est-ce que vous me suivez? Ils ont réalisé qu'un chrétien peut être délivré de démons, et d'un coup, ils sont là toujours en train de chasser des démons aux uns et aux autres. Vous vous mettez à table avec eux, et vous ne pouvez pas avoir une discussion normale, ils vous cherchent un démon. Le problème, c'est que s'ils exerçaient leur don de discernement, comme ils l'appellent souvent sur eux-mêmes, ils arrêteraient pour le restant de leur vie. Parce que je me rends compte, moi, que la plupart des gens que je rencontre qui sont obsédés par chasser les démons, ils ont besoin de délivrance. Parce que ça arrange le diable qu'on parle de lui continuellement, qu'on lui donne plus de poids qu'à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pourtant, au départ, c'est une vérité biblique qu'il faut connaître, qu'il faut mettre en application au sein du corps de Christ. Le Seigneur remet en évidence les dons de l'Esprit, les dons de prophétie, le ministère de prophètes même. Et d'un coup, on se retrouve avec un ensemble de gens qui prophétisent tout ce qui leur passe par la tête, qui veulent manipuler la vie des autres. C'est bien que ça fait peur au bout d'un moment à beaucoup de pasteurs de recevoir quelqu'un de trop prophétique. Parce qu'il va dire des choses justes, parce qu'il a réellement reçu un don le jour même, et la plus grosse idiotie du siècle le lendemain. Et il va arriver à nous la faire passer parce qu'il était juste la veille. Mais la Bible nous dit d'apprendre à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Et pourtant, au départ, c'était une vérité qui a permis à l'Église de rentrer dans une dimension supérieure. Pareil avec le vin nouveau. Aujourd'hui, toutes les églises qui ont été visitées puissamment par le vin nouveau sont retombées à 20, 30 membres, y compris la nôtre, soyons honnêtes. Parce que ce vin, on l'a laissé tourner. Ouh. Dont la maladresse des femmes y est pour beaucoup parfois, pour que les hommes soient braqués après elles. Ça existe aussi. Quand Dieu nous montre une nouvelle vérité, demandons-lui la sagesse pour ne pas la pousser à l'extrême. Alléluia, sinon on va faire plus de mal que de bien. Est-ce que c'est possible de faire plus de mal que de bien avec une vérité? Oui. Souvent, on est un peu obsédé, entre guillemets, par l'idée que ce qui importe, c'est d'aller sauver les âmes. C'est important d'aller sauver les âmes, mais c'est aussi important le travail qu'on fait avec les âmes après, parce que la Bible nous dit que les pharisiens couraient la mer et la terre pour faire un prosélyte, et après, la manière dont ils l'enseignaient, ils les rendaient aussi méchants, sinon plus qu'eux, ils en faisaient de nouveau un fils de la géhenne, pire qu'eux. Donc, mieux aurait valu pour ces personnes, il dit aussi Jésus dans un autre contexte, qu'il n'est jamais connu. Donc, si on amène des gens au Seigneur pour les rendre pires, et c'est ce qu'il disait Michael hier, cette vision de Rick Joyner, il y a une île là, et il y a des tas de bateaux. Je tiens à vous dire qu'il y a des tas de bateaux remplis d'inconvertis qui sont prêts à accoster. Mais Dieu ne veut pas encore qu'ils accostent. Parce que l'idée, c'est pas d'enfermer les gens dans des structures d'église où ils vont devenir religieux et peut-être pire parfois que des inconvertis. Combien de fois on dit d'un chrétien, ah ben celui-là, ça c'est certain qu'il chante Alléluia tous les dimanches. Quand on le voit vivre sur le lieu de travail, on voit comment il traite sa femme et ses enfants, il ferait mieux de se taire. Eh bien, ils ont raison. Alléluia. C'est dur à dire, mais des tas de ces réflexions sont justes. Et moi, je crois à une église glorieuse qui se lève, où les gens, ils te cherchent des failles, ils n'en trouvent pas. Merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement sur la grâce, et on doit continuer à les annoncer. À une époque, le Seigneur les a puissamment utilisés pour relever beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui étaient tombés. On s'est rendu compte que des tas de gens avaient caché des péchés et ils étaient tombés, ils se sont confessés, ils ont confessé en public, on a été édifiés par leur confession. Merci Seigneur, on est d'accord. Mais on cherche aussi des gens qui ne sont jamais tombés. On cherche des références. On ne veut pas donner l'impression qu'il faut obligatoirement tomber dans l'adultère si on est pasteur, si on est prêtre ou si... Est-ce que vous me suivez? Il y a toute une génération qui nous suit, là on a parlé de ces jeunes hier, ben ils cherchent des couples qui ressemblent à des couples. Ils cherchent des couples où le papa, ben il aime la maman, ou la maman aime le papa, ils cherchent des serviteurs de Dieu qui sont pas là pour leur piquer leur pognon ou les manipuler. Ils ont besoin de repères. Ils cherchent des gens qui n'ont pas envie simplement qu'ils soient dans leur église. Et un point c'est tout. Mais des gens qui cherchent leurs intérêts, même si c'est pas à être dans leur église. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce qu'on parle d'un peuple avec une mentalité nouvelle? Tout ça, ça fait partie de la mentalité nouvelle parce que Dieu n'a pas l'intention de continuer à bénir le reste. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte parce que tout a tari. Les guérisons ont tari, les délivrances ont tari et la présence de Dieu a tari. Ça signifie que Dieu, il a dit, on ferme le robinet. Eh bien, moi, j'ai décidé de rouvrir le robinet dans ces séminaires. Mais je sais une chose, c'est qu'on ne peut pas le rouvrir de la même façon. Alléluia. D'où un des piliers de ce séminaire, c'est l'enseignement. Ça ne servirait à rien de rouvrir le robinet pour reproduire ce qui a été déjà fait. Surtout que nous rentrons dans des temps où si Dieu il a fait avec la faiblesse des hommes dans les réveils passés, aujourd'hui, avec plus de connaissances, il va nous demander plus. Donc on ne va pas pouvoir s'en sortir en essayant de vivre au niveau que Dieu acceptait hier dans le réveil d'hier. Est-ce que vous me suivez? Donc on est obligé d'élever le niveau. Amen. Tu veux être une mère, tu veux avoir des enfants, est-ce que tu acceptes la responsabilité de mère? C'est pas juste avoir des enfants pour avoir des bébés et s'amuser avec. Tu veux être père, d'accord, c'est facile de faire les bébés. Si tu ne sais pas, je te donnerai le mode d'emploi tout à l'heure. D'accord, ça c'est simple, ok? Maintenant, est-ce que tu acceptes la responsabilité de père? Parce que c'est beaucoup moins simple. Moi, une fois que j'ai eu des enfants, je me suis dit, peut-être j'aurais mieux fait de ne pas trop critiquer mes parents à l'époque. Mais nous nous éloignons. Où je vais là? Alléluia! Marie, enfant, lorsque l'appel de Dieu se manifeste sur votre femme, votre mère, votre sœur, bien encouragez-la. Ne laissez pas le diable faire de vous l'instrument qui va la faire se rasseoir. C'est tellement déjà plus dur pour une femme de se lever que pour un homme. Elle a besoin de votre soutien, de votre encouragement. Et si vous l'aidez à se lever, croyez-moi, Dieu mettra également à votre compte le fruit qui en découlera. Vous savez que ce qui est important, c'est pas toujours le travail qu'on fait nous-mêmes, mais c'est parfois le travail que notre a fait grâce à nous. Amen. Le gars qui a évangélisé Billy Graham, même s'il a touché que Billy Graham, lorsqu'il arrivera au ciel, seront mis sur son compte toutes les âmes que Billy Graham aura amenées au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez peut-être pas aller à Madagascar, mais Michael, il peut y aller. Vous pouvez pas aller en Afrique, mais Bernard, il peut aller. Vous pouvez pas nous suivre dans ces séminaires, mais nous, on y va. Et je tiens à vous dire que c'est pas toujours facile parce que ça cogne. Et si on racontait tout ce qui arrive avant chaque séminaire, pendant et après, peut-être que ça vous ferait peur. Vous avez l'impression que c'est facile, mais ce que vous voyez sur l'estrade, c'est que le folklore, ok? C'est que la partie de l'iceberg qui dépasse, il y a tout le combat qui se trouve derrière. Eh bien, peut-être vous ne pouvez pas faire partie d'une équipe comme ça, mais peut-être vous pouvez vous semer de votre argent. Vous pouvez prier pour une équipe comme ça, parce que c'est quelque chose qui est unique en France actuellement. Amen? Mais faites quelque chose pour que ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, quelqu'un d'autre puisse le faire. Touchez les extrémités de la terre parce que c'est un commandement que Dieu a donné à l'Église et l'Église est composée d'individus dont il a donné ce commandement à chacun de nous. Nous ne sommes pas tous appelés à partir, mais nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour toucher les extrémités de la terre. Quand vous envoyez les enveloppes, vous touchez les extrémités de la terre. Vous touchez un pasteur qui, grâce à ces enveloppes, il va peut-être vous toucher des milliers. Quand vous arriverez au ciel, on vous dira, voilà des milliers d'âmes. Alors que toi, on t'aura toujours culpabilisé pendant des années en te disant, combien d'âmes tu as amenées au Seigneur cette année? Je commence à en avoir assez de ce genre de questions. Alléluia. Parce qu'on se rend compte que les gens qui se convertissent en général se convertissent à la suite de plusieurs témoignages qui ont été donnés. Et des gens qui ont participé à faire tomber le dernier domino, peut-être ils ne recevront pas la gloire. Comme le footballeur qui marque le dernier but, on va le glorifier, mais pourtant, ce dernier but, c'est la suite de toutes les passes qui ont été faites à travers le terrain pour que ça arrive à lui et qu'il donne le dernier coup. Amen. Donc il y a des gens qui sont peut-être plus en vue comme nous, d'autres plus dans l'ombre, mais il n'y a pas de différence pour Dieu. Mais ce que Dieu regarde, c'est que chacun en fasse une part. Chacun, on doit faire tomber notre domino. Alléluia. Ça y est, c'est fini. J'ai pleuré. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants? J'aime bien faire lever les mains. Ah, mais,